Bonjour, poursuivons notre série d'entretiens autour de la marche pour l'égalité et contre le racisme, enregistrée en novembre 2013 à l'occasion d'une journée d'études organisée par le Centre interculturel de documentation Originante. Aujourd'hui, notre invité est Yazid Kerfi, consultant en prévention urbaine. Interview réalisée avec la complicité de Géraldine Lamont.
Vous aviez 25 ans il y a 30 ans, si mes calculs sont
bons. Je ne me rappelle plus.
Est-ce que pour vous, ça évoque quelque chose dans le contexte ou pas?
Pas trop. D'abord, moi, je n'ai pas fait la marche, puisqu'en ce temps-là, moi, j'étais en cavale. Donc, pendant que les autres marchaient, moi, je courais parce que j'avais les flics au cul, quoi. En ce temps-là, en 83.
Mais on peut en entendre parler.
J'avais d'autres préoccupations en ce temps-là. J'en ai un petit peu entendu parler, hein.
Et depuis, parce que vous êtes invité aussi dans ce cadre-là, donc...
J'ai cheminé hein, aujourd'hui.
Mais pour vous, ça ne signifie rien, en fait.
Si, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est qu'on entend plus parler de ces quartiers que de la violence. Quand je parle, par exemple, des maguettes, moi, c'est pas la marche que je retiens. C'est les émeutes de 81 qu'il y a eu aux maguettes, les rodéos, les maguettes. Vous voyez, chacun... c'est ce que je dirais dans mon discours tout à l'heure... C'est les maguettes, c'est à partir des maguettes qu'est née la politique de la ville en France. C'est pas la marche. Autant. Et la question que je me pose, dit est-ce que la violence fait beaucoup plus bouger le gouvernement que les actions non violentes, puisque la marche est une action non violente en même temps. Dans la réalité, malheureusement, c'est quand il y a de la violence que les quartiers bougent, quoi.
Quand il y a de la pression, en fait, la forte pression.
Il faut de la pression, il faut des rapports de force, même si la marche c'est des rapports de force et autres. Et heureusement qu'il y a de la violence. Hein. La violence, ça fait bouger le monde en même temps. Puis c'est quand il y a des drames que les choses bougent en France, quoi. Malheureusement. Quoi. Il faudrait qu'il y ait plus d'actions, de marches, des grèves de la faim, des choses comme ça, des actions non violentes. Je pense qu'on est plus fort dans les actions non violentes, mais on écoute moins les gens qui font des actions non violentes que les actions violentes. Quoi.
Votre travail, c'est d'anticiper.
Ah oui,
pour éviter que...
Mon boulot, c'est de lutter contre la violence, améliorer les rapports entre les uns et les autres... Par du principe qu'on est des porteurs d'espoir, on apporte de l'espoir à d'autres qui en ont parfois moins, on tend la main, on essaie d'apporter, parler d'amour, hein, le mot amour on en parle peu, alors que c'est vraiment une question très importante, il faut améliorer les relations, notamment entre les uns et les autres. Quoi.
D'une manière très générale, et puis après on pourra approfondir la question, vous êtes très critique.
Je suis critique parce qu'il y a des choses récurrentes qui ne changent pas, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il nous sort son plan banlieue, à chaque fois, c'est-à-dire qu'on oublie ce qui s'est passé, puis chacun veut son plan banlieue en même temps, donc on repart à zéro, alors que ceux qui vivent dans les quartiers, ils sont depuis très longtemps, il y a des choses récurrentes qui ne changent pas, par exemple les rapports jeunes police, on en parlait en 81, on est en 2013, les rapports jeunes police sont toujours très difficiles, en même temps c'est pas au quartier de changer, c'est à la police de changer. En France, on critique toutes les institutions, on ne critique jamais la police. Je pense que la police, elle ne fait pas bien son travail dans les quartiers. Je pense que la police a besoin d'être vue. Ça ne change pas. Je prends un autre exemple. J'ai grandi dans les halls d'immeubles dans les années 80. En 2013, les jeunes sont encore dans les halls d'immeubles. On ne peut en réfléchir pas à cette question. Il y a des questions récurrentes où on ne réfléchit pas. Il faut arrêter de réfléchir sur la politique de la ville, sur les murs. Il faut travailler beaucoup plus sur la relation humaine, les rapports humains entre les uns et les autres.
Donc ce n'est pas une question de dispositifs gouvernementaux, c'est une question de quoi?
Il faut interroger les dispositifs. On peut mettre des animateurs, on peut mettre des éducateurs, on peut mettre des maisons des jeunes et autres. Il faut regarder comment ça fonctionne. Je connais des villes où ils ont une très très belle maison des jeunes, mais c'est une coquille vide, il n'y a personne à l'intérieur. Alors qu'on fait 100 mètres, les jeunes sont tous dans un hall d'immeuble. On se pose la question. On peut mettre la police, mais si les policiers ne savent pas faire de la police dans les quartiers, si les policiers ont des préjugés, vous voyez, c'est pas une question de dispositif. C'est comment ça fonctionne également. C'est sur la relation humaine. On peut mettre des éducateurs, mais si les éducateurs arrêtent leur boulot à 17h ou 18h, alors que la souffrance, c'est la nuit, c'est le soir. On peut se poser la question. Donc les dispositifs sont bien en France, je pense qu'ils sont intelligents, mais c'est comment ça fonctionne en même temps. C'est une question d'hommes et de femmes, de ceux qui sont à les faire marcher ces dispositifs. C'est ça qu'il faut revoir en même temps.
Mais vous êtes d'accord que si on met en place des dispositifs plus ou moins efficaces, c'est qu'on a déjà pris conscience d'un malaise. Donc il y a bien une volonté de faire avancer les choses.
Ah oui, il y a une volonté, mais Il ne suffit pas de mettre l'argent, quoi. Parfois, on peut mettre moins d'argent et faire des choses super intéressantes dans les quartiers. Et puis, des fois, on peut avoir beaucoup d'argent et faire des choses mal en même temps. C'est comment on utilise cet argent en même temps. Donc, il faut beaucoup travailler sur les causes, non pas rester sur les symptômes. Donc, travailler, anticiper. On est meilleur dans l'anticipation que dans la réaction en même temps. Donc, anticiper, travailler sur le long terme. Et puis, avec des gens avec qui on leur donne l'envie de travailler. Mais il faut que les hiérarchies aussi soutiennent leurs équipes. En même temps, les gens sont dans un mal-être, aussi bien les jeunes que les adultes. Moi, je pars du principe que dans le problème dans les quartiers, c'est pas les jeunes qu'il faut changer, c'est le monde des adultes. Tant qu'on change, c'est le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes. Il faut revoir un petit peu comment fonctionnent les adultes en même temps. On a les jeunes qu'on mérite en France. C'est parce que les adultes sont défaillants qu'aujourd'hui, on a autant de problèmes dans autant de quartiers en même temps. Revoir comment fonctionne le monde des adultes, quoi. Aussi bien l'école, les prisons, la police, les éducateurs, les parents également. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir.
Et votre action concrète ?
Je fais plein de choses. Moi, je travaille en prison. Je fais des groupes de parole avec les détenus. Il n'y a pas beaucoup de groupes de parole en prison. Les détenus ont besoin de parler en même temps. Tant qu'ils n'ont pas parlé, tant qu'ils ne libèrent pas leur souffrance qu'ils ont à l'intérieur, forcément, c'est rare en même temps. Enfin, je travaille dans les quartiers. J'y vais souvent la nuit dans les quartiers parce qu'à part les commissariats, il n'y a rien d'ouvert. Je pose une question. Ça fait 30 ans que ça, c'est comme ça en même temps. Je suis enseignant à l'université, je forme des futurs professionnels qui vont travailler dans les quartiers difficiles. C'est comment travailler dans les quartiers difficiles? Comment on apprend à communiquer, y compris avec des gens qui ne nous aiment pas? En général, on ne sait pas avec des gens qui nous aiment. Il faut apprendre aujourd'hui à parler, y compris avec des gens qui ne nous aiment pas. Donc c'est pour ça que j'organise souvent des débats conflictuels entre les jeunes et la police sur le concept « transformer la violence en conflit ». La conflit, c'est positif, c'est la violence qui est négative. Je travaille beaucoup sur ces questions, donc je forme aussi bien des acteurs, mais aussi j'apporte beaucoup d'espoir à des jeunes dans les quartiers. Les aider à comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on peut devenir violent et délinquant, avec les facteurs aggravants, tous les phénomènes qui viennent, et de quelle manière on agit là-dessus en même temps. Donc j'essaie de travailler là-dessus, puis aider les parents qui sont en grande difficulté avec leurs enfants, la précarité, le chômage, la pauvreté, donc j'essaie d'agir vraiment sur les causes en même temps. Je ne regarde pas sur les symptômes, mais vraiment j'essaie de travailler sur les causes pour anticiper, quoi.
Il n'y avait pas de formation à la base pour vous, si, non ?
Si, j'ai une formation de voleur. J'étais voyou avant, pendant 15 ans, hein, j'étais délinquant. Parce qu'à l'école, ça n'allait pas. Parce qu'à l'école, on m'a considéré comme un nul. Parce que dans ma famille, on m'a dit que j'étais un bon à rien. Parce que les flics m'ont considéré comme un voyou. Donc, comme tout le monde le disait, je me suis comporté à l'image que tout le monde me disait. Je m'ont dit que j'étais nul, je me suis comporté comme un nul. Et quand je suis devenu voyou, je suis devenu quelqu'un. Vous voyez, c'est, la question à se poser, c'est comment on peut exister sans utiliser la violence ou la délinquance. C'est une façon d'exister, la délinquance, mais aussi c'est un appel au secours. C'est une forme de suicide. En même temps, donc, le jour où moi, j'ai toujours récidivé, le jour où on m'a tendu la main, que les gens m'ont regardé autrement, à ma dernière peine de prison, c'était une peine de 4 ans la dernière fois. Vraiment, les gens m'ont soutenu, je devais être expulsé du territoire français parce qu'on m'a dit que j'étais une personne irrécupérable, qu'il fallait à tout prix m'expulser du territoire français. Et vraiment, j'étais surpris que les gens viennent mal à mon jugement et disent qu'on juge que j'étais un mec intelligent, qu'il ne fallait pas m'expulser. J'avais quand même 31 ans, ça m'a vraiment bousculé qu'on me dise que j'étais quelqu'un de bien. Pour faire plaisir à tous ces gens-là, j'ai dit maintenant, je ferai tout pour devenir quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est une histoire de regard. Les gens m'ont regardé autrement, donc j'ai regardé les gens autrement. Les gens ont dit que j'étais quelqu'un de bien, je dis maintenant, je ferai tout pour devenir quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de changer le regard, c'est une histoire de main tendue.
Donc ce qui voudrait dire aussi que finalement, les gens qui pourraient être compétents, qui pourraient justement dans ce lien humain, il faudrait qu'ils aient vécu plus que le passage à l'école en fait. En gros, si je suis ce que vous dites.
Ils ont vécu ?
Oui, c'est la vie qu'ils vont vivre, les difficultés qui feront qu'ils seront bons sur le terrain. Plus que d'aller
non,
à l'école
et de suivre. C'est revoir la formation des futurs acteurs en même temps. Sinon, on va dire qu'il faut que des voyous, des anciens voyous, pour intervenir auprès des voyous. Non, c'est que je pense que les acteurs qui travaillent dans ces quartiers ne sont pas suffisamment bien formés. En général, les gens qui travaillent dans les quartiers ne sont pas issus de ces quartiers. Donc, ils connaissent mal ce monde, donc il faut qu'ils ils en connaissent un peu mieux, qu'ils comprennent mieux la délinquance. Qu'est-ce qui fait que l'individu devient violent ou délinquant? On n'est pas des délinquants, on le devient. Donc, d'abord, utiliser les personnes qui sont passées par là, parce qu'ils ont déjà la bouteille, mais après, il leur faut une formation. J'ai plusieurs diplômes universitaires à côté. Et de l'autre côté, les acteurs qui n'ont pas cette connaissance, il faut améliorer leur connaissance. Et en même temps, je pense qu'à partir de là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler dans l'empathie, quoi. Réfléchir un petit peu, se mettre un peu à la place de l'individu. C'est pas normal que cette personne est violente ou délinquante. Donc essayer de creuser un petit peu avec la personne pour essayer d'avancer en même temps, quoi.
Et comment ça se passe dans l'enseignement ?
Très très bien. D'abord, j'ai été remarqué à l'université par les profs quand j'ai passé une licence et un master. Ils m'ont dit tout de suite, il faut que tu enseignes, tu as les capacités. Ça se passe très bien parce que les étudiants apprécient également mon discours en même temps. Mais en même temps, je les ramène après la nuit sur les quartiers avec moi, sur le terrain. C'est des futurs professionnels en même temps. Et ils apprennent beaucoup en même temps. Parce que mon boulot, c'est de provoquer des rencontres avec des personnes qui ne se rencontrent pas. Et puis, d'ailleurs, j'essaie de les rendre des battants, quoi, en même temps. Il faut, quand on enseigne, quand on intervient dans les quartiers, il faut vraiment être des militants, des battants. Des... Il faut croire à la personne qu'on a en face de soi, il faut croire en l'humain, en même temps. Quand on met toute sa pêche et tout ça, ça se voit dans le regard que la personne elle t'aime en même temps. Vous voyez, c'est une question d'amour. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire du bon boulot. Il y a des gens qui font des boulots qui n'aiment pas les gens en face en même temps. Ils n'ont rien à foutre en même temps. Ils font ça pour le salaire. À tous, hein, je ne suis pas en train de généraliser, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment donner beaucoup de soi-même en même temps, et ça se sent dans la personne que tu aimes en face de toi. Et dit, moi j'aime bien ces personnes-là parce que c'est grâce à ces personnes-là, bah, c'est vraiment battu pour moi. C'est ça, c'est un engagement, quoi. Quand on intervient dans les, notamment dans les quartiers ou auprès des personnes en difficulté, des personnes en souffrance, puisque derrière la violence, c'est forcément des personnes en souffrance. Donc il faut vraiment s'engager à fond, quoi, là-dedans, en temps, quoi. Et là, on arrive à passer des messages, et quand on passe des messages, on arrive vraiment à aider la personne qui est en face de nous à cheminer, quoi. Mais on chemine avec lui en même temps, parce que ça nous transforme en même temps, quoi. Donc il faut accepter de travailler de cette manière, je pense. Moi aussi, je défends les travailleurs sociaux, d'abord parce que je suis un travailleur social moi-même. On est beaucoup aujourd'hui dans le contrôle, on est dans les chiffres. La mission locale, vous voyez ces chiffres, c'est combien on a reçu de personnes. Chacun, on est dans les chiffres, parce qu'on est dans les statistiques, on est beaucoup là-dessus, on n'est plus forcément dans la relation humaine, donc il faut aussi les aider là-dessus. C'est qu'ils ont la pression des hiérarchies, qui les poussent à travailler d'une certaine manière, alors qu'eux, ils aimeraient travailler de l'autre manière, donc ils sont en difficulté. Et le conflit qu'il faut avoir, c'est ces travailleurs sociaux avec les hiérarchies au-dessus, entre ceux qui leur demandent de travailler d'une certaine manière, donc il faut aussi se battre là-dessus. Le plus dur de travail, c'est pas forcément toujours auprès du public, c'est aussi avec les commanditaires qui sont au-dessus en même temps, donc ils te demandent une certaine façon de travailler. Donc il faut aussi se battre là-dessus en même temps. Il faut vraiment leur donner l'envie de travailler, mais qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions et qu'ils puissent aussi mettre eux-mêmes leur force pour intervenir auprès des autres. Quoi.
Ceci dit, le résultat de votre travail est qualitativement ou quantitativement appréciable. Ça devrait conduire à développer votre approche.
Oui, mais je suis assez marginal. Le problème, c'est que les institutions, les ministères et autres, ils ont du mal à savoir vraiment qui je suis, parce que je suis un électron libre. Moi, je travaille tout seul. Je suis consultant indépendant, je travaille à mon compte, j'interviens comme ça. Et comme on peut pas me mettre... Moi, je suis irrécupérable. Je n'aurai jamais de carte politique, je n'irai jamais dans un ministère, ça ne m'intéresse pas du tout. Je garde mon intégrité, c'est de travailler avec ma pêche, puis je forme des gens pour aussi intervenir là-dessus. Mais j'essaie d'éviter de rentrer dans une institution et puis de rentrer, parce que sinon tu débordes des chefs dessus. Donc comme on a du mal à me caser quelque part, donc forcément, parfois on m'évite en même temps, mais enfin, je suis un militant, je suis un révolutionnaire, j'essaie de faire bouger les choses. J'essaie d'être dans l'innovation. En même temps, je travaille beaucoup dans l'innovation sociale et d'intervenir d'une autre manière. Je dis, si on n'y arrive pas de cette manière, il faut réussir d'une autre manière. Je prends un exemple. Aujourd'hui, j'ai un camion, je m'installe le soir dans les quartiers, je mets un barnum, je fais du talent, je mets de la musique et je m'installe, par exemple, de 9h du soir jusqu'à 2h du matin dans un quartier. Je ne connais personne. Je m'installe. Au bout d'un moment, les gens qui traînent dans les rues, qui sont dans les halls, ils viennent, ils s'assoient, ils boivent un thé. Comment ça va? Ah ben ça va pas, les choses comme ça. Ils commencent à parler de son malaise, des choses comme ça. On apporte des messages. Puis à la fin de la soirée, je dis. Ça m'a fait du bien parce que moi j'ai pu parler à quelqu'un. Quoi. Puis en même temps on peut l'orienter. Quoi. C'est une façon de travailler, mais aujourd'hui il faut revenir à la base, c'est travailler d'une autre manière. Des fois mon boulot c'est j'y vais avec des personnes, et puis on passe la nuit, on fait le tour des halls. C'est une façon aussi de travailler de cette manière en même temps. Le problème c'est que j'ai du mal à trouver aussi des acteurs qui puissent le faire. Donc j'y vais avec des gens qui ont envie de faire du terrain. Comme je donne des cours partout, je demande à mes étudiants, on y va ensemble. Quoi. Mais des fois j'ai un psy qui vient avec moi, un éducateur, même un policier en civil, sur comme ça, j'y vais avec des humains en même temps. Et forcément, les relations sont toujours magiques. Mon boulot, c'est de provoquer des rencontres avec des personnes qui ne se rencontrent pas. Forcément, chacun évolue. La personne qui a passé toute la soirée avec des jeunes dans un hall, ils ont appris plein de choses qu'ils n'auront pas après l'université. Et les jeunes sont vraiment contents de rencontrer des gens différents d'eux en même temps. Vous voyez, ça crée une ouverture, ça apporte de l'espoir de part et d'autre en même temps. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle de l'innovation sociale. C'est pas suffisamment reconnu en France.
Mais ce qui est dingue, c'est que c'est l'innovation sociale alors que c'est simplement revenir aux fondamentaux.
Bah oui, c'est revenir aux fondamentaux.
C'est ça qui est paradoxal.
On a du mal à revenir aux fondamentaux. Les gens ont tellement les formations qu'ils ont. Il y a un endoctrinement aussi dans les formations en tant que c'est d'une certaine manière. On dit oui, mais les jeunes sont comme ci, des choses comme ça. Donc forcément, ils ont déjà dès le départ plein de préjugés. Ils ont été formés d'une certaine manière. Trop de formation, ça déforme aussi en même temps. Il ne faut pas être trop formé en même temps. Donc, mais il faut revenir aux fondamentaux, s'asseoir, dire bonjour.
Yazid Kerfi, consultant en prévention urbaine, est l'invité de la rédaction.
immeubles, il y a des gens qui rentrent, bah, dites bonjour à ceux qui sont encore. Même s'ils font chier, bah, commencez d'abord à leur dire bonjour, passez 5 minutes, ramenez leur intermont, parler avec eux. C'est des petites choses comme ça, mais qu'on oublie. On est tellement professionnel qu'on oublie des fois la base. Revenir à des choses simples en même temps. Des fois, on oublie, quoi.
Donc ça, c'est valable partout, pas seulement dans les quartiers.
Non, alors,
dans
c'est valable partout, à tous les niveaux, c'est valable en même temps, quoi. Donc, il faut, moi, je crois, oui, il faut revenir aux fondamentaux en même temps. Des choses simples qu'on a oubliées. On a tellement complexifié, je n'arrive pas à trouver le terme, complexifié des choses, qu'on oublie ces fondamentaux, quoi. Commençons à se dire bonjour. Là, prenons une personne en stop, c'est ça. Donnons une pièce à une personne comme moi. Donnons la main à quelqu'un. Quelqu'un qui sort de prison, on lui tend la main. C'est des petites choses comme ça, et je pense que si on revenait à ces fondamentaux, on arrivera à faire plein de choses, quoi. C'est pas très compliqué à faire, quoi. Mais on oublie, quoi. On dit non, c'est peut-être pas intéressant, on n'y croit pas. C'est que peut-être qu'on n'y croit plus. On n'y croit pas, quoi.
Mais parce que dans nos sociétés, on s'individualise.
Oui, aussi, oui.
Et donc, tant que ça ne nous concerne pas personnellement, prendre la distance.
On ne se sent pas concerné, c'est surtout ça, souvent.
Oui, on ne se sent pas concerné, oui, mais en même temps, tout nous concerne en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut motiver les gens, il faut intervenir de cette manière. Sachez que le principal financeur de mes actions, c'est la Fondation Abbé Pierre. Ce n'est pas par hasard. Hein. Ce n'est pas les ministères qui soutiennent mes actions. Hein. C'est la Fondation Abbé Pierre. Pas par hasard, quoi. Parce que le dernier livre de l'abbé Pierre, il n'a pas le temps de finir, c'est « N'oubliez pas les jeunes ». Dans ce cadre-là, la Fondation Abbé Pierre me demande d'intervenir sur les territoires, parce qu'il travaille sur le logement, mais si en bas il y a des problèmes, en bas du logement, donc...
Mais tout est lié, de toute façon.
Donc, oui, tout est lié, donc c'est pas par hasard, quoi. Donc un grand merci à la Fondation Abbé Pierre pour son soutien, quoi.
Vous avez encore la pêche ?
Alors, j'ai toujours la pêche. J'adore ce que je fais, puis en même temps, je suis payé par... Mais comme quoi, vous voyez, on peut être comme ça à un moment donné, puis dans la vie, on peut changer... Mais parce qu'il y a des gens qui m'ont ouvert les yeux, parce qu'ils m'ont regardé autrement, quoi. Vous voyez, c'est... Et qu'ils ont regardé plus mes qualités que mes défauts. Les défauts, on a tous des qualités et des défauts. Mais dans le temps, on regardait que mes défauts, donc j'existais qu'avec mes défauts. Le jour où on a regardé plutôt mes qualités que mes défauts, bah, j'ai joué avec mes qualités. Je suis le même homme, sauf qu'avant j'étais malhonnête, aujourd'hui je suis honnête. Mais je suis la même personne.
Et ça voudrait dire qu'on ne dépend que du regard posé sur nous ?
Bah beaucoup quand même, hein. Mais si les parents disent que mon fils a nul, un bon à rien, c'est beaucoup une histoire de regard, une histoire d'amour, quoi. Si on t'aime pas. Moi, quand je vais voir des jeunes le soir dans un immeuble, la plupart des gens ils me disent « de toute façon, personne ne nous aime ». C'est vrai, on voit les gens rentrer dans le hall, ils leur disent pas bonjour. Les policiers ils passent tout de suite, les jeunes font se faire contrôler. C'est le mot « amour » est un mot très important. Non, ça, non mais on en revient aux fondamentaux. C'est la base. Après, il y a notre travail à faire, mais c'est d'abord cette base en même temps. Comment on rentre en contact avec des personnes, quoi. C'est comment on se met, pas sur un piédestal, sur des rapports d'égalité avec des personnes.
Mais ça veut dire qu'en gros, vous leur dites concrètement, même si on ne t'aime pas, faisons une force. En gros, c'est ça, ce que vous faites passer.
Mais être plus fort que ça. C'est-à-dire, on ne va pas tous se battre contre des gens qui ne nous aiment pas. On ne va pas tous, bien sûr. C'est que chacun fait un pas vers l'autre en même temps. Peut-être s'ils ne t'aiment pas, c'est peut-être sur ta façon de te présenter. Ou ton regard. Est-ce que toi, tu l'aimes, la personne ? Quand les flics disent « Ouais, mais les jeunes ne nous aiment pas. » Et je dis aux flics « Est-ce que vous aimez les jeunes ?» Tout de suite, vous allez voir « Ah ben non, c'est les voyous, vous n'aimez pas. » Vous voyez comment ils généralisent en même temps, c'est de part et d'autre. C'est comment on peut... Un petit peu d'amour, quoi. Un petit peu de... Enfin, regarder un petit peu les gens autrement, quoi.
Il y a un double mouvement. C'est à la fois le regard que l'autre porte sur la personne et le travail de la personne sur le monde qui l'entoure.
Oui, c'est croire en l'humain. Moi, je crois en l'humain. Croire en l'humain, c'est ça, c'est croire que l'humain peut changer.
Au-delà des préjugés.
Ah oui, au-delà des préjugés, oui. Au-delà des préjugés, quoi. Je pars toujours du principe que derrière le violent, derrière le délinquant, il y a forcément une personne en souffrance. Pour moi, il n'y a pas de délinquant heureux. Les délinquants sont des gens malheureux, mais ils ne le diront jamais. Ils se cachent, ils ont un masque, ils se cachent derrière l'autre. Mais quand tu creuses un petit peu, quand tu crées une relation de confiance, au bout d'un moment, il est capable de déballer son sac. Moi, j'ai travaillé en prison, y compris dans les très longues peines, des détenus, y compris 15 à perpétuité. Au bout d'un moment, parce que j'arrive à créer de l'empathie, puis parce que je suis passé par là aussi, je dis, Aziz, je vais t'expliquer. Enfin, comme moi, ok, je suis un caïd, ok, des choses comme ça, mais en fin de compte, je suis malheureux dans la vie. Moi, quand j'étais petit, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, au bout d'un moment, il est capable de parler de son mal-être. Une fois qu'il a pu parler de son mal-être, il dit, ça va mieux. Il dit, tu m'as ouvert les yeux sur des choses qu'on ne m'a pas fait parler dans le passé. Vous voyez, c'est que travailler sur soi-même. C'est pour ça que. La psychologie, c'est vachement quelque chose d'important.
Yazid Kerfi, consultant en prévention urbaine, est l'invité de la rédaction.
On est dans une société malade. On est le pays en Europe qui consomme le plus de médicaments. les antidépresseurs, on est le pays en France.
Puis le deuxième pays où il y a plus de suicides aussi.
Où il y a le plus de suicides. La deuxième cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Donc forcément, vous voyez, le mal-être, ça rejoint. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, quoi.
Du boulot, un logement, ça suffit pas.
Non, ça suffit pas. Il y a un travail sur l'estime de soi. Sur
le mais c'est quand même la condition, c'est une condition importante.
Ça en même temps. Mais il y en a, ils sont pas prêts d'aller au travail parce qu'ils sont pas bien encore. Il faut régler leurs problèmes internes en même temps. Donc il y en a, ils ont pas les capacités en même temps. Donc il y a un travail sur soi-même. Mais après, c'est vrai que ça s'appelle la désistance. La désistance, c'est le processus de sortie de la délinquance. C'est souvent une histoire de rencontre, la rencontre amoureuse, par exemple, ou le travail. Ou rencontrer un éducateur, un animateur, c'est le travail ensuite, c'est le logement, bien sûr, c'est simple, c'est l'estime de soi. C'est ça, c'est la grande majorité des individus sortent à un moment de la délinquance, c'est souvent vers 25-30 ans, mais parce qu'il y a la maturité, il y a l'âge, parce qu'au bout d'un moment, il fait une autre bonne rencontre, c'est le travail et c'est le logement en même temps. La grande majorité en sortent. Donc il faut beaucoup travailler, on connaît très bien l'entrée de la délinquance, aujourd'hui il faut beaucoup plus travailler sur la sortie de la délinquance. Le terme, c'est la désistance.
La prison, souvent, ça détruit plus que ça ne répare.
Je connais bien la prison, ouais. C'est que la prison a son côté criminogène, et puis je parle des chiffres, hein, 80% des mineurs qui vont en prison récidivent. Chez les majeurs, le taux est à peu près de 60%. Pourquoi ? D'abord, on se fait plein de copains en prison. En général, il y a très peu de gens en étant en prison. Donc on se fait que des copains délinquants, c'est pas terrible. Hein. Deuxièmement, de quoi parlent les détenus en prison ? Ils parlent pas de l'école ou du travail, ils parlent tous du business. Donc on t'apprend à mieux voler. Tu te fais des réseaux. Hein. C'est comme le pôle emploi. En prison, il y a tous les corps de métier, des dealers, des braqueurs, des receleurs. Comme en général, les délinquants aiment la délinquance, donc ils regardent dans quoi ils vont s'orienter. Et troisièmement, à cause des conditions carcérales, tu sors avec plus de haine. Tu rentres sans haine, tu sors avec de la haine. Ça veut dire qu'en sortant de prison, tu t'es fait des copains délinquants, tu sais mieux voler, tu as plus de haine. On peut comprendre pourquoi il y a autant de récidives. De plus, en sortant de prison, les gens honnêtes, ils vont te regarder d'une manière hostile. Et chez les voyous, tu vas passer pour un caïd. Donc tu as tendance, en sortant de prison, d'aller vers ceux qui t'aiment que vers ceux qui t'aiment. Comprends le processus. La grande question à se poser, c'est comment on accueille les sortants de prison. Si nous, on ne les accueille pas, gens honnêtes, ils iront forcément en retour, soit leurs copains, ou soit ils iront voir les copains qu'ils ont connus en tôle. La sortie de la prison est très importante. C'est à nous, acteurs, de préparer la sortie de ceux qui sont à l'heure actuelle en prison. Quoi. Moi, on m'a tendu la main, c'est ce qui m'a fait changer. Notre travail aujourd'hui, c'est de tendre la main. Ok, ouais. T'as fini ta peine, tu vas repartir sur de nouvelles bases, nous, on va te soutenir à ce moment-là.
On vous a tendu la main, mais vous étiez aussi apte à la résilience. Ça vient quand même aussi toujours de volonté
personnelle. J'avais quand même 31 ans, ma dernière peine, mais parce que les gens m'ont cru en moi, là. Mais quand j'écoute, mais les ministères, parce qu'ils avaient décidé mon expulsion de directeur français, de toute façon, je serai encore des stars, et je serai encore pire voyou. Les gens m'ont tendu la main, ils m'ont regardé autrement, parce qu'ils ont trouvé que c'est intolérable d'expulser quelqu'un qui est né en France, qui a toute sa famille en France. Le problème de la délinquance des jeunes d'origine étrangère en France, c'est un problème français. C'est pas le problème de nos pays d'origine. C'est pas en Algérie que je suis devenu délinquant, c'est en France. Donc c'est à la France de résoudre ce problème-là en même temps. Quoi. Ça veut dire quoi l'expulsion ? C'est-à-dire qu'on te met une double peine parce que tu n'es pas français, on te donne une peine supplémentaire à un français. C'est ça qui est complètement discriminant. Non, c'est que les gens ont tendu la main. Mais après, en discutant avec eux, au bout d'un moment, j'ai fait un travail sur moi-même. Et après, j'ai été passionné par le travail social. Aider les autres, c'était pas un travail, c'est une mission pour moi. C'est une mission. Aider les autres, c'est une mission.
Et la prison n'est pas dissuasive ?
Non, pas suffisamment. Un certain nombre de personnes ne récidivent pas en même temps, mais la prison a son côté criminogène. Il y a un gros travail à faire à l'intérieur des prisons. Moi, je crois à la loi pénitentiaire que Taubira a essayé de lancer. D'abord, j'étais membre du jury de la conférence du consensus. Hein. J'ai participé à l'écriture du rapport qu'on a donné à Taubira. Le problème, c'est que l'opinion publique ne croit pas trop. Quoi. On entend les discours, hein. Il dit que Taubira va libérer tous les détenus, c'est pas vrai. C'est qu'un détenu qui est accompagné en sortant récidive moins qu'un détenu qui sort en fin de peine. Les chiffres le disent. Un détenu qui sort en conditionnel récidive moins qu'un détenu qui sort en fin de peine. Or, dans la réalité, il n'y a que 10% des détenus qui bénéficient de la conditionnelle. Il y a quand même une aberration. Mais quand tu dis à l'opinion publique qu'on va libérer les détenus à la moitié de la peine, il dit « mais vous êtes fous ». Vous voyez, c'est ça qui est aberrant. Les gens ne comprennent pas cette réalité. Parce que quand on sort en conditionnel, on est accompagné, on a un logement et on a du travail. C'est pas en maintenant les gens entre quatre murs pour les sortir à la délinquance, quoi. Il faut convaincre l'opinion publique. C'est d'abord ça.
Merci à Yazid Kerfi, consultant en prévention urbaine, pour sa libre participation à ce magazine, réalisé avec le concours de Géraldine Lamant et la complicité du Centre interculturel de documentation, organisateur de la célébration des 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme.